Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'arrive un peu en cours de route, mais ma foi, je vois que la teneur des débats est assez élevée. C'est très bien, ça me ravit. Oui, j'ai pas souhaité, parce que finalement, moi, j'ai pas l'expérience de mon cher collègue qui était là tout à l'heure. Je suis beaucoup plus jeune, je suis beaucoup moins... ça ne durera pas, mais... je suis moins investi, je dirais, dans les très hautes sphères du ministère ou de l'université. Pas encore, mais peut-être bientôt. Et puis, j'ai aucune compétence en termes d'enseignement dans le secondaire, etc. Bref, j'ai une petite compétence en enseignement des premiers cycles universitaires, un peu, mais voilà. Alors, je suis doctorant à l'université Paris 10, qu'on appelle maintenant Paris Ouest Nanterre La Défense. Et je participe à une équipe de recherche qui s'appelle le ART, Histoire des arts et des représentations. Au sein de cette équipe, c'est une équipe transdisciplinaire. On trouve des gens qui viennent, quand même le gros des troupes vient de l'histoire et de l'histoire de l'art particulièrement, mais on a aussi des gens qui viennent des études cinématographiques, théâtrales, de la philosophie dans son volet esthétique, et puis on a un ou deux anthropologues perdus là, etc. Bref, tout ça fait une bien belle maison, et on essaye de déployer des méthodes d'enquête et de recherche à propos d'un certain nombre d'objets, d'axes, dont un particulièrement qui concerne l'histoire de l'art contemporain, plus particulièrement de ces 50 dernières années, c'est la performance, et qui réunit, entre autres, des gens qui viennent des études théâtrales, de la philosophie, de l'histoire de l'art, etc. Bref. Moi, je consacre ma thèse à un artiste dans Fluxus. Fluxus étant un mouvement artistique des années 60-70, pour aller très vite, qui s'appelle Georges Brecht, qui est né en 26, qui est décédé en 2008, et qui a été l'initiateur d'une forme particulière parmi toutes celles qui peuplent ce vaste champ des formes performatives, qui s'appelle l'event, l'événement. Donc je travaille sous une forme de monographie thématique sur les formes d'art de l'événement, d'abord telles qu'elles ont été pensées, élaborées, produites par Brecht, et puis ce que ça a donné en termes de grammaire performative chez d'autres artistes, dans d'autres courants artistiques des années 70. C'est mon point de départ. Ce que Fluxus a bien et ou mal et ou pas fait à l'histoire de l'art contemporain, quelques enjeux historiographiques. Voilà. Finalement, je n'ai que des problèmes. Vous allez me dire, comme tous les doctorants, on n'a que des problèmes avec notre corpus, on n'a que des problèmes avec les œuvres qu'on étudie, et c'est bien, la résolution, le dépassement des dichotomies, des apories, etc., de cette recherche qui permettent à la recherche d'avancer. Enfin, nous, on a fait assez fort. A priori, rien dans la méthodologie, les outils de l'histoire de notre discipline, l'histoire de l'art, nous amenait de ce côté-là. Et finalement, quand les historiens de l'art ont commencé à prendre à bras-le-corps ce qu'ont produit les artistes dans les années, à partir des années 55-60, dans la plupart des sociétés occidentales, qui n'étaient ni des objets, etc., donc, qui s'appelaient des actions spectacles, des happenings, etc., on s'est trouvé bien démunis en termes de méthodologie, bien démunis en termes d'outils, bien démunis en termes d'approche, et il a fallu qu'on bricole, qu'on braconne sur d'autres terres disciplinaires, qu'on se bricole des outils, etc. En toute franchise, je dois vous avouer que c'est ce qui m'a particulièrement plu dans ce champ de recherche, les performance studies, comme on dit en anglais, c'est cet aspect un peu braconnier. L'idée qu'il faut construire des outils, et qu'il est presque aussi important de construire des outils finalement que de construire des corpus, etc. Bref, voilà. Alors, voilà d'où je viens. Et la demande de Martine Marzloff pour aujourd'hui, c'était écoute Cyril, tu vas nous parler des croisements culturels. Bon. Alors, les croisements culturels, c'est pas a priori vraiment ma tasse de thé, pour deux raisons. D'une part, je suis plutôt de ceux qui réfutent la position culturaliste en sciences sociales. C'est-à-dire finalement une vision essentialiste qui assigne à des formes, etc., une localité, je pense que les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus processuelles, qu'il y a beaucoup plus d'interactions que des assignations strictes, etc. Donc déjà les partis pris épistémologiques du culturalisme me posent problème. Mais en revanche, j'étais quand même très heureux parce que Fluxus... terme d'acculturation, de transfert, de transvaluation des cultures, on est au cœur de quelque chose d'assez extraordinaire pour les années 60. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez, on peut compter, alors là, les spécialistes de Fluxus vont se battre à couteau tiré, mais on va dire une quarantaine de membres, éparpillés sur trois continents, avec deux groupes dominants, des Japonais, des Américains et des Français. Mais... parmi ceux-là, des Lituaniens, des Tchèques, des Suédois, des Anglais, des Espagnols autour du groupe Tsar, un Coréen, Nam June Paik, quelques Allemands, etc., etc. Donc, Fluxus se signale d'emblée par sa polarisation internationale. Mais à la différence d'un groupe comme le groupe surréaliste du premier XXe siècle, ça n'est pas un groupe internationaliste, parce que ça n'est pas un groupe hiérarchisé. Ça n'est pas un groupe dont la structuration sociologique est de l'ordre du mouvement tel qu'on pouvait l'envisager dans sa forme classique, qui est celle des avant-gardes depuis les années 1890 ou à peu près en Europe, c'est-à-dire... grosso modo un théoricien, un bataillon d'artistes, et puis d'un côté, dans une main, la révolution esthétique, dans l'autre main, la révolution politique et la transformation sociale. Voilà un petit peu la recette de cuisine des avant-gardes qui a eu son modèle qui s'est surtout sédimenté avec le futurisme et qui a perduré justement jusque dans les années 60-75. Et ça commence à se déliter à ce moment-là. Et ça commence à se déliter dans Fluxus. Dans Fluxus, on a bien André Breton en puissance qui voudrait être le pape de Fluxus comme l'autre a été le pape du surréalisme, même si tout ça est très discutable du point de vue historique. George Machunas, qui est, je devrais pas du tout prononcer son nom comme ça, on devrait plutôt dire Jurgis Machunas, puisque c'est un Lituanien d'origine, qui a cherché à construire une théorie, etc. Alors il a fait un manifeste, et à la différence du surréalisme, eh bien quand il a publié son manifeste, tous les autres ont publié un manifeste différent pour bien lui signifier qu'il n'était pas question dans Fluxus de construire un axe, etc. Et pourtant, il y a bien des facteurs d'homogénéité dans Fluxus. Il y a bien, voilà. Alors, c'est une organisation en réseau, non pyramidale, qui pratique le coup, hein, le concert. Voilà, on a une opportunité pour faire un concert dans une ville, pour faire une exposition. Eh ben, on y va, mais il n'y a rien de réellement concerté. Ce sont des coups, etc. Et finalement, c'est un autre mouvement qu'on peut penser en termes d'analogie. C'est davantage le mouvement Dada, qui, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit en France, ne s'est pas essentiellement développé en France. Hein. Il y a eu un foyer français à Dada, mais il y en a eu un à Zurich, il y en a eu un très important à Berlin. Finalement, le mouvement Dada a essaimé un peu partout, de la même manière que Fluxus a essaimé un peu partout dans les années 60. Alors, la question que je me pose, c'est comment on réussit à collaborer des gens qui, a priori, étaient issus de milieux extrêmement différents. Yoko Ono, qui, si ma mémoire est bonne, n'est pas que l'épouse de John Lennon, hein, qui est aussi une immense artiste et qui était issue de la famille impériale japonaise, qui a réussi à construire une carrière d'artiste aux États-Unis, alors même que les Japonais n'étaient pas encore en grande odeur de sainteté quand elle démarre ses travaux à la fin des années 50. Nam June Paik, qui lui était un docteur en musicologie, un élève de Schoenberg, etc., qui vient de Corée, qui voilà. Et puis des gens comme Robert Filiou, qui était un économiste, qui a participé au plan de reconstruction de la Corée en 1954, ou encore George Brecht, qui était un chimiste de formation, celui grâce à qui, pardon, celui auquel on doit l'invention ou le brevet du tampon hygiénique en 1957 pour les entreprises Johnson & Johnson. Bref, cette quarantaine de personnes, voilà, il s'agit de voir comment elles se sont regroupées, etc. Et ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est les champs d'idées et les phénomènes d'acculturation entre différents champs notionnels, des champs culturels différents. Dans Fluxus, on trouve une attention extrême, une bienveillance particulière, voire un outillage qui vient des philosophies extrêmes orientales. Et c'est assez singulier dans le champ de l'art occidental des années 60. Pas seulement les Japonais du groupe, pas seulement les Coréens du groupe, mais Filiou, finalement, en faisant l'économiste en 54, a découvert le bouddhisme et est devenu un croyant pratiquant, hein, dans sa forme taoïste. Bref, Georges Brecht, lui, a utilisé les procédures cognitives du bouddhisme qui lui permettaient de résoudre des problèmes qui tombaient toujours sur les mêmes réponses, hein, avec finalement notre mode de pensée occidental, qui est quand même caractérisé par une propension à tout séparer en deux, hein. Regardez les couples notionnels qui structurent la pensée occidentale, objet, sujet, etc., etc. On sépare pour mieux avancer, nous, hein. On est dans la ségrégation. Alors que Brecht a trouvé du côté du bouddhisme l'idée de processus, d'événement, quelque chose qui était finalement aux antipodes de la pensée occidentale. Bref. Ils ont été aidés par John Cage, qui est un compositeur américain extrêmement connu, mais qui était aussi enseignant. Il avait une classe de composition expérimentale à la New School for Social Research à New York. Et alors les cours de John Cage, c'était quelque chose de tout à fait particulier. D'une part, il ne s'adressait pas uniquement aux étudiants de ce qui pouvait localement être le conservatoire de musique, puisque des gens qui venaient de la littérature, etc., ont pu s'inscrire dans ces classes de composition expérimentale. Et puis, dans ces classes de composition, on ne parlait pas que musique. Il invitait également des chercheurs américains en physique subatomique afin d'expliquer les théories d'Heisenberg sur la physique quantique, etc. Il invitait Daisei Tsairo Suzuki, qui a été le grand propagateur dans l'université américaine de la philosophie zen dans les années 50, qui était professeur à Berkeley et qui était titulaire de la chaire de John Dewey à Berkeley. Bref, ça a été, je dirais, le lieu de cette articulation entre des cultures et des modes de pensée, des modes d'agir et de comportement extrêmes orientaux, et puis tout ce qui venait de la tradition des avant-gardes européennes, qui était en pleine reformulation à cette époque aux États-Unis, voilà. Et tout ça a essaimé un peu partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça donne, Fluxus ? Eh bien, par exemple, pour Georges Brecht, ça donne ça, la Wateryam. Ce sont des partitions de performance, c'est-à-dire une boîte en carton qui coûtait $2 en 1963, c'est-à-dire un prix extrêmement modique, et sur lequel, finalement, l'artiste ne signe plus qu'une partition qui est à réaliser par n'importe qui, pas seulement par lui. Il précise bien que tout type d'actualisation de ses œuvres est absolument valable. Voilà une des premières versions, une des premières partitions que j'ai retranscrites ici, parce qu'évidemment... Là, vous voyez, on est obligé de regarder comme tout ça a été écrit, partait d'un corpus écrit, et regarder la manière dont ça s'écrit. Et ce qui est assez extraordinaire chez Brecht, c'est qu'il y a une grammaire de l'event qui s'est mise en place progressivement entre 59 et 62. C'est une même partition, et vous avez ces trois occurrences dans l'ordre chronologique. Dans la première occurrence, c'est typiquement Fluxus, c'est typique du concert Fluxus, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui participent du chant de la musique. Hein, les gens viennent en queue de pie sur scène, etc., avec des instruments de musique. Et puis là, il y a une forme d'iconoclasme, hein, un peu post-dadaïste. Hein, on va faire s'écouler de l'eau dans la partie, la chambre d'écho d'un tuba, par exemple. Et c'est ça qui va former le concert. On voit bien tout ce qui vient de Cage de ce côté-là. C'est-à-dire l'idée de dépasser la question des notes, ou plutôt la segmentation du monde en musical et bruit, qui était la grande séparation de la musique occidentale, hein, l'idée de Cage, c'était de tout prendre en compte. Et l'idée d'événement sonore lui permet de tout prendre en compte. Et il dit finalement, un compositeur doit travailler un événement sonore comme un sculpteur travaille sa matière. Et il n'y a aucune raison pour qu'on ait le droit de travailler que quelques événements sonores, qui sont ceux produits par les instruments avant, les percussions, etc., c'est-à-dire les quatre grandes familles de l'orchestre philharmonique, quoi, entre guillemets. Donc il a dit, voilà, dans ses classes de composition expérimentale, il demandait à ses élèves de descendre dans la rue, d'acheter des objets, et puis on allait voir ce qu'on allait pouvoir faire avec en termes de matérialité sonore. Il faisait travailler ses élèves aussi avec les premiers transistors, c'est-à-dire finalement ce qui correspondait outre-Atlantique aux expérimentations de la musique électroacoustique en France. Mais toujours avec cette idée de l'événement. Brecht, qui va le premier formuler la dimension performative de l'event pour Fluxus, va opérer un rapt, c'est-à-dire qu'il va prendre toutes les conceptions de Cage, les travaux de Cage, et il va les sortir de la musique pour les emmener dans un endroit que un artiste de Fluxus a appelé un endroit intermédiaire entre les médias, l'event étant participant à la fois de la littérature, à la fois des arts visuels et à la fois de la musique. Voilà. Et c'est ce lieu-là particulier où va se tenir l'event Fluxus, et ce qui le rend très difficilement cernable pour nous. Voilà, alors dans ces partitions, je vous disais, dans cette première partition, c'est extrêmement détaillé. On parle d'un premier performeur, d'un deuxième performeur, on détaille exactement l'action. Deuxième performance, regardez, grammaticalement, on passe à la voix passive. C'est-à-dire que la caractérisation est beaucoup plus vague. Il n'est plus question de performeur, mais en passant à la voix passive, on se focalise moins sur le sujet acteur, c'est-à-dire le performeur, mais plutôt sur le processus lui-même. Et enfin, on passe à cette merveille de la langue anglaise qui s'appelle le gérondif. Le gérondif qui décrit un procès qui est non borné, c'est-à-dire dripping, comment on traduit ça en français ? Goutte à goutte, s'écoulant, c'est extrêmement problématique. Et imaginez-vous en train d'interpréter dripping, est-ce qu'il s'agit de faire couler dans un verre ? Est-ce qu'il s'agit de le réaliser à la méthode Fluxus, c'est-à-dire monter sur une échelle, de faire dans un tuba ? Les occurrences sont extrêmement ouvertes. C'est une œuvre ouverte au sens d'Umberto Eco, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment l'interprétation est extrêmement libre. Alors, ça c'est pour les parties performées qui avaient lieu lors des concerts, mais il a même donné lieu à ce qu'il appelle des objets-événements, comme les chair events, les chaises-événements. Voilà, par exemple, ce qui pourrait nous apparaître de prime abord comme un assemblage au sens culturel du terme, vient d'une partition. Mais là encore, on ne vous dit pas dans quelle manière il faut disposer les différents éléments. C'est absolument libre. Et je vous fais juste remarquer la couleur blanche de la chaise et le spectre lumineux qui est dans la partie inférieure de l'un des pieds. Comme l'ensemble des couleurs du spectre lumineux se résorbe dans la couleur blanche et réciproquement, si vous voulez, il n'y a plus d'œuvre unique, il n'y a plus d'œuvre multiple. On est même au-delà de la question du multiple et de l'œuvre unique. Finalement, ce sont des dichotomies et des catégories qui n'ont tout simplement plus cours face à de telles œuvres. Alors, maintenant, commencent les problèmes. Le problème, c'est par exemple, on va voilà, la manière, on peut arranger ou découvrir un événement, hein. Je peux faire Drip Music en louant un minibus et en vous emmenant tous à la montagne et en vous alignant en randonnion devant une cascade, par exemple, et puis je pourrais annoncer Drip Music. Ce serait une manière d'occurrence tout à fait valable dans l'esprit de Brecht. Et voilà un petit peu comment fonctionne le dispositif sémiotique de l'event. Et c'est là où commence le problème. Ce ne sont pas des objets. Donc, on est obligé de prendre en compte l'articulation entre plusieurs stades. Un stade intentionnel, c'est-à-dire le moment de la construction de partitions, de l'élaboration de partitions écrites. Donc là, il va falloir peut-être mobiliser les instruments de l'analyse littéraire, de la linguistique, etc. Et puis le moment de la réalisation, qui peut être physique, hein, on a vu le cas de la chaise tout à l'heure, mais qui peut être spéculatif. Yoko Ono en a fait sa spécialité, hein, et alors c'est tout à fait savoureux quand on sait que c'était quelqu'un qui est né au Japon, et justement quand on relie ça à toute la philosophie zen, hein, c'est-à-dire les œuvres qui ne se réalisent que spéculativement, que dans l'esprit, que en esprit, elle a fait des œuvres qui sont irréalisables autrement que cognitivement, si vous voulez, mais qui sont des œuvres absolument éblouissantes, où il s'agit d'imaginer des œuvres, etc., etc. Et puis, il y a un autre moment, c'est le moment de la documentation, de la production d'une archive, photographie, film le cas échéant, à partir du moment où les moyens vidéographiques peu onéreux, etc., se sont développés. Et c'est tout ça, l'event. On ne peut pas, je dirais, ne prendre que la partition ou que les occurrences, etc. C'est un processus continu, parce que la production de cette archive et de cette documentation, elle détermine en retour les nouvelles occurrences. Par exemple, on s'est rendu compte que cette œuvre étant toujours représentée avec la même sédimentation iconographique, c'est-à-dire sa réalisation de 1972 qui est dans telle collection de tel musée, etc., eh bien, à chaque fois qu'elle est re-réalisée, elle est réalisée de manière classique, hein. On pourrait presque prendre à notre compte finalement l'outillage de la musique, hein, entre le renouvellement de l'interprétation et une interprétation classique. Eh bien, dans Fluxus, il y a des interprétations classiques, c'est-à-dire toutes les réinterprétations, même en 2010-2011, qui cherchent, à travers les archives, la production d'une documentation historique, à réactualiser la forme de 1962, la forme ou la manière de performer de Dick Higgins, de Filiou, etc. Et donc, il y a déjà une querelle dans les réactivations entre ceux qui s'en écartent et ceux qui sont dans une pratique plus historiciste, si vous voulez. Voilà. La deuxième problème, c'est comment on conserve ça. Alors, c'est une question qui n'est pas uniquement posée aux historiens de l'art, mais également au monde des musées. Et le monde du musée est, je dirais, dans un embarras extrême. Pourquoi ? Eh bien, parce que globalement, en Occident, le paradigme de l'œuvre d'art, il s'est construit autour de trois dominantes qui se sont sédimentées à partir de la Renaissance jusqu'à nos jours. La domination de l'aspect visuel, la domination de l'aspect objectuel et la domination de l'unicité sémio-matérielle. Si on est dans le processus, l'unicité, terminée. Si on est dans l'expérience performative et parfois dans le noir, hein, il y a des performances de Ben Perfetterson dans le noir, le visuel, terminé. Si on est dans l'objet, eh bien voilà, terminé aussi. Donc c'est un vrai problème. C'est un problème pour les collections, pour le montrer, etc. Alors qui n'est pas, je dirais, la muséographie rencontre des problèmes similaires, par exemple, pour exposer les arts extra-européens. L'objet étant un concept occidental n'ayant absolument pas cours en Afrique au XVIIe siècle, je veux dire, voilà, ce sont des sujets qui sont enfermés dans des vitrines au musée du Quai Branly, et toute la réflexion muséologique actuelle, et une grande part de la réflexion ethnographique, porte justement sur la manière de réenvisager les régimes d'expérience, les régimes de monstration de ces objets. Bon, bah, globalement, voilà, je me retrouve assez avec les problématiques qui sont ceux des historiens de l'art africain ou des ethnologues sur ces questions. Donc, je vais aller chercher des outils qui ont déjà été un petit peu produits de ce côté-là. Je vais aller chercher aussi des outils du côté de l'analyse littéraire, je l'ai dit, mais des études chorégraphiques ou théâtrales. C'est-à-dire la performance étant quelque chose qui se déroule dans le temps, il faut l'analyser comme tel, hein, c'est-à-dire analyser des schémas actantiels. Il y a des moments, je dirais, spécifiques dans un processus temporel, hein, le moment du départ, le moment comment ça s'arrête. Est-ce que c'est les phrases d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui structure ce processus? Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce qu'il y a des objets ou des événements qui sont adjuvants ou opposants, c'est-à-dire qui facilitent le processus ou qui s'y opposent, etc. Il a fallu trouver tout un tas de modèles, de méthodes pour rendre compte de la production du sens. Parce qu'au fond, c'est bien ça notre problème à nous, les historiens de l'art, hein. On est non seulement des historiens, mais on a aussi cette autre jambe, c'est l'herméneutique, c'est-à-dire analyser comment les œuvres produisent du sens. Donc il a fallu regarder quelle pouvait être cette grammaire, comment procédait la signification de ces œuvres, et qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher du côté du théâtre, etc. etc. Deuxième cas de transfert culturel, alors c'est Robert Filliou. Le principe d'équivalence, on voit rien. Ouais. C'est très simple. Bien fait, mal fait, pas fait. Les trois sont équivalents. C'est une manière de refonder totalement la dialectique occidentale, hein, par Robert Filliou. Et il a fait de cette matrice, hein, une matrice cognitive et plastique, le moteur de tout un tas d'œuvres plastiques. Alors voilà le principe d'équivalence. Alors pour illustrer ce principe, vous avez une première boîte dans laquelle il y a une petite chaussette rouge qui est exactement en dimension de la boîte. Voilà le bien fait. Deuxième boîte, la chaussette rouge est beaucoup trop grande pour le contenant. Non, c'est le mal fait. Troisième boîte, la boîte est vide. C'est le pas fait. Ces trois éléments devenant les éléments du bien fait d'une progression qui va en expansion. C'est pour ça qu'on a cette impression visuelle d'expansion, c'est-à-dire que c'est une suite mathématique, si vous voulez. Je vous parle de ça parce que cette matrice lui a servi à produire une œuvre d'art qui est dans la collection du Musée d'art contemporain de Lyon, qui fait environ 85 mètres de long par 2,71 mètres de hauteur. Pardon. C'est une immense toile écrue qui est un récit plastique de la création du monde depuis l'origine de la matière jusqu'à la naissance de la conscience, et qui prend en compte toute l'actualité des sciences des années 70, puisqu'elle date de 1974. C'est-à-dire, il a actualisé, hein, c'est une espèce de panorama encyclopédique de l'histoire des sciences. C'est donc une cosmogénèse articulée au début d'une anthropogénèse, sans aucune dichotomie entre les deux. Et le moteur de cette articulation, c'est non seulement plastiquement cette expansion, c'est-à-dire que c'est pas simplement une histoire linéaire comme ça successive, il y a une expansion plastique, une intrication des valeurs associées et des champs notionnels qui est faite grâce au principe d'équivalence. Avec un système idéographique, et ce qui est absolument époustouflant dans cette œuvre, c'est qu'il arrive à articuler finalement tout ce qui fait Fluxus, c'est-à-dire le champ des philosophies extrêmes orientales. Il articule le Tao, par exemple, avec la théorie du Big Bang, en s'inspirant de théoriciens de la physique qui étaient assez à la mode dans les années 70, comme Fridtjof Capra. D'ailleurs, il y a eu une mode chez les physiciens dans la physique quantique, hein, de la même manière, pour repenser, ils avaient des problèmes cognitifs monstrueux avec la physique quantique, donc ils sont allés voir du côté du bouddhisme et des philosophies extrêmes orientales des manières de penser l'ubiquité, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un électron peut être à la fois une onde et un corps? difficile à penser avec des, je dirais, des modes de pensée occidentaux. En revanche, si on envisage ça à la manière dont le bouddhisme envisage la matérialité du monde, c'est-à-dire non plus de manière mécaniste comme on l'a fait dans l'histoire occidentale, hein, c'est le mur de briques qui se subdivise toujours en parties de plus en plus petites, mais comme une série juxtaposée d'événements sans intervalle, pris dans un flux global, eh bien, ils ont trouvé des manières de penser, d'articuler, de formuler des hypothèses, etc., qui ont eu un impact considérable sur l'histoire des techniques et des sciences. C'est ce que fait Filiou à sa manière. Pas dans la physique quantique, mais voilà, ils refondent une espèce de grande cosmographie, anthropographie, si vous voulez. Voilà. Alors évidemment, moi, j'ai publié fin octobre un essai à propos de cette œuvre. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est sans doute l'œuvre la plus extraordinaire de Filiou, la plus riche de potentialités, etc. Et en tout et pour tout, je n'ai trouvé que 15 lignes. C'est-à-dire qu'il y a eu une véritable occultation de Fluxus en France, et en Europe en particulier, mais tout simplement parce que c'était inaudible. Imaginez un type qui arrive, qui se dit taoïste dans les années 70, qui fait une cosmogénèse, etc., et qui se retrouve face aux tenants de la théorie critique, du structuralisme et de la littéralité formelle. Ce sont deux mondes qui ne pouvaient pas se rencontrer et encore moins se parler. C'est une des raisons de l'incompréhension de Fluxus en France avec cet autre... voilà. Et on a eu tort à cette époque, et globalement les historiens de l'art des années 80 en France à la suite de cette époque, de considérer ça comme une espèce de New Age, de vagues. Alors je suis tombé sur un texte d'Umberto Eco de 62 par exemple, qui parle de la vague zen aux États-Unis. Il dit « Ah, oh, les Américains, ils en ont plus que pour le zen ». Oui, il y a eu une mode pour les philosophies extrêmes orientales dans tous les champs de la création. Littérature, regardez la Beat Generation, ce qu'écrit Allen Ginsberg et la manière dont il articule au sutra, etc., dans la musique avec Cage, dans les arts plastiques, etc. Ça a essaimé dans tous les champs de la création. Donc c'est un... voilà. Alors, les problèmes, eh bien, les problèmes que ça pose, premièrement, c'est ben, la question de l'opposition entre le local et le global, et quelque chose qui a quand même été très très fécond pour la pensée de l'histoire de l'art, c'est l'articulation entre une localité, hein. On parle de foyer en histoire de l'art, d'ère chronoculturelle, dont émaneraient des déterminismes sociaux qui produiraient des formes qu'on ne peut pas voir à d'autres endroits, etc. Donc c'est vrai qu'à partir des années 60, liées au très fort mouvement géographique et démographique à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et puis au début du phénomène qu'on a appelé en anglais la globalisation, cette question de l'articulation d'une forme et d'une localité est beaucoup plus problématique. Les outils qu'on avait pour penser ça sont de plus en plus problématiques. Ce qui vous explique pourquoi je ne peux pas être culturaliste. Je ne peux pas assigner, j'ai de plus en plus de mal, surtout pour les années 60-70, à assigner telle forme à un ancrage populaire, par exemple, ou élitiste, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a une extrême versatilité des formes, il y a une extrême mobilité sociale, et on a tous en tête ces formes qui partent d'un ancrage populaire, qui passent dans un ancrage élitiste, qui reviennent, etc. Il y a bref, une extrême versatilité des formes. Voilà. C'était quelques petites... Alors, ce sont des pastels. Hein. Là, je n'ai que des images en noir et blanc, mais il y a de la couleur. Bref. Bon, alors, je me suis un peu amusé à faire une formalisation logique du principe d'équivalence, tant qu'à faire, puisque c'est un peu un outil dialectique. C'est-à-dire quelque chose qui permet, comme les algorithmes ou la dialectique, de résoudre des problèmes, de dépasser des antinomies. Nous qui faisons des dissertations en permanence, on le sait bien, on a un problème. Ben, la méthode dialectique, etc., ça permet de dépasser des problèmes. Alors, l'équivalence du bien fait, du pas fait et du mal fait articulé à une progression mathématique, ben, c'est une manière de résoudre quasiment tous les problèmes dans la vie. Pas forcément de la manière la plus heureuse toujours, hein, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Voilà. Et j'en arrive à un autre trublion de Fluxus, ce qui me fait ma transition avec la question des problématiques liées aux légitimités culturelles. C'est Ben, qui est un des artistes français qui a participé à Fluxus, et pour lequel j'ai organisé le colloque qui a eu lieu au Musée d'Art Contemporain l'an dernier, puisque j'étais conseiller scientifique au Musée d'Art Contemporain à l'occasion de cette exposition. Bon. Ben, c'est très problématique. Moi, j'ai fait une intervention à ce colloque sur Ben, artiste populaire, point d'interrogation. L'idée, c'était de mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire de tout décomposer. Déjà, qu'est-ce que c'est que le populaire ? Est-ce que c'est un outil qui a une valeur heuristique intéressante dans le champ des sciences sociales? Les avis sont très partagés. Bourdieu voulait pas du tout entendre parler de cet adjectif populaire. Du côté des cultural studies américaines et anglo-saxonnes, on est beaucoup plus partisans de ce type d'approche. En revanche, moi, l'idée, je veux bien reconnaître, dire au fond, il s'agit de dire qu'il les sociétés sont des processus qui sont tramés par des rapports de force. Et à ce titre, il peut bien y avoir des rapports de force sociaux entre des affiliations, etc. En revanche, il ne faut pas essentialiser les choses. Je crois que le danger, c'est d'essentialiser. Et ce que je trouve assez génial avec Ben, c'est que c'est un stratège. C'est un finaud. Quand il fait cette peinture « Je signe rien », il joue sur plusieurs niveaux. À la fois, je signe rien d'un point de vue sociolectal. Ben, l'élision du « ne », c'est une forme de parler courant, donc familier. Hein. Normalement, on dit « je ne signe rien », donc qui renverrait davantage à des pratiques dites populaires. Et en même temps, ce faisant, quand on déploie un petit peu tous les niveaux d'interprétation de l'œuvre, ceux qui ont fait un peu de latin savent bien que rien, hein, l'étymologie, c'est quelque chose. Et le principe même de Ben, c'est qu'il signe tout, donc il signe bien quelque chose, voyez. Et tout ça articulé à la fin des années 50, début des années 60, avec énormément de pertinence à l'essor de la société de consommation, à une réflexion critique assez aiguë sur la question de l'autorité dans le champ artistique qui a débouché sur l'article bien connu de Michel Foucault en 65, hein, sur la question de l'auteur, cette mise en critique de l'auteur. Donc, au fond, j'ai essayé de prouver que c'était un malin. Et c'est pareil sur le marketing, hein, on dit... Ben fait du marketing. Quand on regarde vraiment dans le détail, c'est un bien mauvais marchand. Il a réussi à peine à négocier un contrat de 3 000 € avec Covadis pour des centaines de milliers de... Non, il est dans la pratique Fluxus, c'est-à-dire produire des multiples qu'on peut acheter pour 10 € et dans lequel le contenu, c'est-à-dire la production, la proposition artistique, est articulé à l'objet. Il ne s'agit pas de reproduire des tableaux sur des mugs. Ça, c'est la version Andy Warhol. C'est l'entrepreneuriat d'art. C'est autre chose. C'est l'artiste-entreprise. Non, là, on est dans une logique qui est typiquement Fluxus, mais Fluxus qui a grandi depuis les années 60 et qui prend en compte les incidences de l'industrialisation de la culture et qui essaye de produire ce que Michel de Certeau appelait des tactiques, de ruses, etc. D'ailleurs, il essaye de s'immiscer, de ruser avec plus ou moins de bonheur, etc. Et il est sans cesse... Alors, j'avais essayé aussi de démontrer, par exemple, que finalement, une approche culturaliste intéressante, même si je ne suis pas un culturaliste, ça pouvait être d'opposer les pratiques aristocratiques et populaires sur la question de la distance. L'aristocratique, ce que dit Bourdieu dans la distinction, c'est l'instauration d'une distance symbolique, etc. Et finalement, dans Fluxus, et chez Ben en particulier, on a ça aussi, c'est-à-dire la distance vis-à-vis du corporel, la distance vis-à-vis de l'expérience, la distance vis-à-vis du privé, hein, toutes ces actions dans la rue. Alors la rue est un lieu de texture extraordinaire pour articuler le privé, le public, etc. Ont précisément pour vocation d'abolir toutes les formes de distance symbolique vis-à-vis du public. Finalement, quelqu'un, un artiste comme Picasso, il y a un temps de production de l'œuvre et de réflexion dans l'atelier, et puis il y a le temps de l'exposition qui est après. Quand dans Fluxus on fait des actions de rue, tout début des années 60, eh bien, on est là face à un public qui ne s'attend pas forcément à être un public. On parle de public accidentel. On est dans un rapport direct au public qui peut interagir et modifier la performance. Donc, voilà un petit peu. J'ai beaucoup parlé. Alors, l'idée, c'est aussi d'échanger avec vous. Puisque l'histoire des arts a quand même... Je me suis un petit peu renseigné. Hein, pas enseignant, mais j'ai regardé les programmes, la manière dont c'était formulé, repose sur la transdisciplinarité. Je crois que dans l'histoire de l'art contemporain des années 60, il y a des lieux particuliers où l'articulation entre le littéraire, la musique, le visuel, les sciences sociales, la philosophie est extrêmement forte. Je crois que ce sont des choses qui peuvent être intéressantes justement à travailler à plusieurs et dans lequel on tombe pas dans l'illustration, si vous voulez, dans l'illustration visuelle d'un thème littéraire par exemple, qui est quand même le péché mignon de rapport littérature histoire de l'art, ou réciproquement, hein, les deux sont valables. Ça va quand on la pratique de manière iconographique, c'est-à-dire quand un historien de l'art grec, par exemple, regarde la manière dont les sources littéraires produisent des vers formulaires sur le jugement de Paris et les réarticule et comment c'est réarticulé, reformulé sur des cratères, etc., et comment ces reformulations des cratères peuvent redéterminer des formulations littéraires un ou deux siècles plus tard. D'accord, là ça marche. En revanche, souvent, le bas blesse quand on est juste dans de l'illustration. Alors justement, là, on est sur des terrains où tout peut s'articuler, où ces artistes ont cherché à tout articuler. C'était une grande utopie des années 60. Voilà. Voilà un petit peu l'espèce d'ouverture. Et du coup, évidemment, sous le chapeau de l'histoire de l'art, ça demande, moi je crois, pour ce genre d'objet, de mobiliser essentiellement la démarche, les démarches anthropo-sociologiques et les sciences du langage ou la littérature au sens très large. Ce qui m'amène, par exemple, à pratiquer des terrains ethnographiques. Ce n'était pas ma formation, il a fallu que je me mette au terrain ethnographique, à apprendre à faire des descriptions ethnographiques, à regarder ce que c'était que le langage de la chorégraphie, les postures, etc. etc. Voilà. Donc c'est des nouveaux outils qu'on est en train de s'approprier un peu partout dans le monde, dans l'histoire, le champ de l'histoire de l'art contemporain, particulièrement dédié aux pratiques performatives. Voilà. Mais on a plus de questions que de réponses encore à ce jour, c'est-à-dire on tâtonne. Voilà. On n'a pas encore de vision à long terme. Dans 50 ans, on pourra peut-être voir si on a un corps de doctrine, si on a un corps de méthode qui est bien ficelé, qui tient la route. Voilà. Alors je suis bien évidemment, même si je n'ai fait que parler pendant... Je suis bavard, mais je suis aussi ouvert à toutes les questions, les interrogations. J'ai pas réponse à tout, mais j'y travaille.